La tricochronique de Christian Weissenbach-Herr. La chevelure de Mélisande ne se contente pas d'apparaître dans sa chanson ou dans sa perruque. Elle joue aussi un rôle important comme agent dramatique et comme vecteur symbolique dans l'ensemble de la pièce de Maeterlinck. La première fois qu'elle intervient dans l'opéra de Debussy, c'est au début de l'acte 2, dans une scène qui est une véritable fête galante. Péléas et sa belle-sœur Mélisande sont assis vers midi au bord d'une fontaine dans le parc du château, et ils échangent des propos fades, tandis qu'à l'orchestre jasent la flûte et la harpe. La fontaine s'appelle la fontaine des aveugles. Et ce que les jeunes gens ne voient pas en effet, c'est qu'ils ont bientôt rendez-vous avec la mort, à commencer par Péléas, qui tombera sous l'épée de son frère Golo au bord de cette même fontaine. Le destin émet cependant des signaux à travers la chevelure de Mélisande, qui tombe dans la fontaine, tandis que la princesse se penche pour tenter d'en toucher l'eau.
Ne vous penchez pas ainsi,
je voudrais toucher l'eau.
Prenez garde de glisser, je vais vous tenir par la main.
Non, non, je voudrais y plonger mes deux mains.
Oh, prenez garde, prenez garde, Mélisande, Mélisande. Oh, votre chevelure.
Je ne peux pas la perdre.
Oh,
au troisième acte, Mélisande laisse à nouveau tomber sa chevelure. Mais cette fois, c'est en se penchant du haut de sa tour, tandis qu'elle tente d'atteindre la main de Péléas. Ses cheveux tombent sur le prince, l'enveloppant de cette matière soyeuse qui va nourrir son rêve d'amour. Il répond à cette douceur tombée du ciel en adressant à Mélisande autant de baisers que chacun de ses cheveux peut en faire monter jusqu'à elle. Là aussi, le destin lance des signaux. Ce sont à présent les colombes de Mélisande qui s'envolent de la tour, emportant l'innocence de leur maîtresse sans espoir de retour. Quand les cheveux de Mélisande font leur troisième et dernière apparition dans le quatrième acte de l'opéra, c'est Golo, le mari jaloux, qui semble avoir oublié qu'il est aussi le père de l'enfant qu'elle porte. C'est Golo qui contraint sa femme à le suivre à genoux et qui se sert de ses cheveux pour la traîner à droite et puis à gauche et puis à droite. Là où Péléas est attiré par le chant des étoiles dans la nuit, Golo a les yeux rivés au sol à l'affût de ses proies. Son gibier, dont il suit les traces ensanglantées, sa femme qu'il traîne par les cheveux, et son frère qu'il est d'abord tenté de précipiter dans le gouffre sous les souterrains du château, et qu'il va peu après abattre près de la fontaine des aveugles.
Ne tâchez pas de fuir ici, donnez-moi cette main. Ah, vos mains sont trop chaudes, allez-vous-en, votre chair me dégoûte, allez-vous-en. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre à genoux. à genoux devant moi. À gauche et puis à droite. Absalon, Absalon. En avant, en arrière, jusqu'à terre, jusqu'à terre. Vous voyez, la vie déjà comme un vieillard. Ah, ah, ah.
Vous avez entendu Golo invoquer par deux fois Absalon. Absalon est un personnage biblique qui trouve un double écho dans la pièce de Maeterlinck. D'abord en Golo, car il fut jaloux de son jeune demi-frère Salomon, que leur père, le roi David, lui préféra comme successeur. Ensuite en Mélisande, car il périt transpercé par un général de son père, alors que, fuyant l'armée victorieuse de David dans la forêt d'Éphraïm, il resta accroché par sa longue et belle chevelure aux branches d'un chêne.